C'est en observant les animaux que Darwin a bâti sa théorie de l'évolution. Des pigeons aux autruches, en passant par les mouches ou les dauphins, la classification du vivant a construit ses bases sur l'observation des bêtes, et ce travail fondateur a également permis de mieux comprendre la place de l'homme au cœur de ce bestiaire. Les animaux ont donc non seulement été essentiels pour comprendre la théorie de Darwin, mais aussi pour nous dire si l'homme est un animal comme les autres. C'est cet après-midi le dossier de l'émission avec mes invités. Vos questions dès maintenant sur le site de la Tête au Carré. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
Et c'est l'accélération de la montée des océans qui est aujourd'hui à la une de la science.
Oui, avec une observation majeure publiée par une équipe franco-suisse, la montée des eaux due au réchauffement climatique s'est accélérée d'environ 30% sur les 20 dernières années. On en discute avec la physicienne Annie Cazenave.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Darwin, l'évolution, les hommes, les animaux, aujourd'hui dans notre dossier avec mes invités, le naturaliste Marc Giraud et l'auteur scientifique Jean-Baptiste de Panafieux. Bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Marc Giraud, si l'on s'en réfère à votre ouvrage, Darwin doit sa légitimité à un plateau de crustacés.
Eh oui, les cirripèdes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, on pourrait croire que c'est des coquillages, des mollusques. C'est les petites choses, les petits chapeaux pointus qu'il y a sur les moules, par exemple, ou en plus grand sur les baleines. Ouais. Et c'est Darwin, d'ailleurs, qui a trouvé que c'était des crustacés, parce que quand il a fini son voyage à bord du Beagle, il avait besoin d'une légitimité scientifique, donc il a étudié ces animaux-là pendant 8 ans, jusqu'à l'indigestion ces crustacés, vraiment. Hein.
Vraiment, oui.
Et en fait, il a trouvé des tas de choses, il a nommé des parties anatomiques nouvelles qu'il était le premier à regarder. Voilà, il était dans un
terrain. Il y avait des choses surprenantes d'ailleurs sur ces crustacés, je crois.
Le pénis géant, peut-être.
Le pénis géant, c'est quoi, 8 fois, c'est ça la taille?
8 fois la taille du corps, parce que ces petits animaux-là ne bougent pas, donc ils envoient leur pénis faire
shocking,
le boulot.
Shocking, au pays de la reine Victoria, quand même.
Et oui, sa fille Etty a voulu censurer les propres études de son père sur le pénis géant, effectivement.
On y reviendra avec vous. Jean-Baptiste de Panafieux, l'homme descend-il des crustacés ou des singes?
Aucun des deux, bien entendu. Il a des ancêtres communs avec les deux, mais avec tous les animaux.
C'est ça. Mais il faut encore le repréciser aujourd'hui, hein, parce que l'histoire du singe, ça reste encore un peu brouillé dans les esprits.
Oui, en fait, il ne descend pas du singe, il descend d'un singe. Si on voyait notre ancêtre commun avec les chimpanzés, il ressemblerait à un singe, on l'appellerait un singe, il n'y a aucun doute là-dessus.
Allez, on y revient avec vous dans quelques minutes pour cette discussion humaine, animale et bien sûr évolutive, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Pour la première fois, des scientifiques observent directement une accélération de la montée des eaux. Entre 2004 et 2015, les eaux du globe sont montées entre 25 et 30% plus vite qu'entre 1993 et 2004. C'est un résultat majeur, publié par une équipe franco-suisse que vous dirigez. Annie Cazenave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Alors, la montée des eaux, on l'estime depuis un moment, maintenant on l'annonce. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'elle est observée aussi précisément.
Bon, je dirais pas tout à fait ça. Ça fait 25 ans qu'on l'observe de manière assez précise avec des satellites qu'on appelle satellites altimétriques. Mais en fait, ce système altimétrique, il a des problèmes, comme tous les systèmes d'observation. Il arrive que parfois les instruments aient des dérives instrumentales. Et en fait, notre étude, qui n'avait pas du tout pour objectif au départ de déterminer cette dérive instrumentale, elle l'a mise en évidence, elle l'a quantifiée. Et une des conséquences de cela, c'est que, eh bien, on a révisé les chiffres que l'on publiait jusqu'à présent sur la hausse de la mer au cours des 25 dernières années, c'est-à-dire cette période qu'on appelle la période altimétrique.
Oui, mais ce chiffre d'accélération, c'est quand même une surprise. Entre 25 et 30%, c'est beaucoup.
Oui, tout à fait. En effet, je voudrais quand même brièvement rappeler l'histoire de cette dérive. Topex Poseidon, c'est le premier satellite altimétrique de haute précision qui a été développé par la France et les États-Unis, qui a été lancé en 92 et puis qui a été suivi de beaucoup d'autres missions, Jason 1, Jason 2, Jason 3, Sentinel 3, etc. Et ce système altimétrique permet d'observer de manière très précise la hausse du niveau des mers avec une couverture globale. Et c'est extrêmement important parce qu'on sait que le niveau de la mer, c'est un des meilleurs indicateurs du changement climatique actuel, puisqu'en fait, il intègre les changements de toutes les composantes du système climatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la mission, il y avait un seul instrument qui mesurait le niveau de la mer, le radar s'appelait TOPEX-A, et les ingénieurs du CNES et de la NASA, en fait, ont très vite détecté des problèmes instrumentaux de cet altimètre, attribué à un vieillissement prématuré de l'électronique, et ce qui les a conduits en début 99 à l'éteindre et à basculer sur une redondance TOPEX-B. Bon. À l'époque, on pensait que ça n'avait aucun impact sur la mesure du niveau de la mer. Et ça, pourquoi? Alors, vous devez trouver ça bizarre, parce que il a fallu 25 ans, non pas tout à fait 25 ans, 20 ans, pour qu'on remette en question cette conclusion. En fait, c'est parce que à l'époque, on savait pas très bien comment se comportait le niveau de la mer, et puis surtout, il y avait le système altimétrique avait beaucoup d'autres erreurs, et au fil des années, le bilan d'erreurs s'est amélioré, il a énormément diminué. Juste pour illustrer cela, je voudrais mentionner l'effort de l'Agence spatiale européenne, au cours des 5 dernières années, qui a développé le projet Climate Change Initiative, qui a, entre autres pour le niveau de la mer, mais pour beaucoup d'autres variables climatiques.
Mais il faut qu'on rentre dans les détails parce qu'on a peu de temps.
Qui a conduit à un reprocessing total de toutes les missions altimétriques. Et aujourd'hui, on a des produits beaucoup plus précis.
Alors, on comprend que vous avez réconcilié les données altimétriques avec d'autres types de mesures la montée des eaux. Attendez, je voudrais finir la question, s'il vous plaît. Quelles sont ces autres mesures qu'on a aujourd'hui de la montée des eaux et que, avec cette publication, vous réconciliez?
Alors, on a la mesure altimétrique directe qui nous informe sur le niveau de la mer. Et puis on peut aussi, parce qu'on sait à quoi est due la hausse du niveau des mers, c'est-à-dire c'est dû au réchauffement de l'océan, la dilatation thermique de l'océan, à la fonte des glaciers continentaux, à la perte de masse de glace de l'Antarctique et du Groenland, puis d'autres phénomènes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir différents systèmes d'observation qui nous permettent de déterminer de façon totalement indépendante chacune des contributions. Et si on fait la somme, eh ben normalement, on devrait trouver un bon accord avec le niveau de la mer observé par altimétrie. Et ça, c'était l'objet de notre étude. Au départ, c'était pas du tout de déterminer cette dérive instrumentale. Et on s'est aperçu que ça marchait très bien à partir de 99, à partir du moment où on avait basculé sur l'altimètre TOPEX-B, jusqu'à aujourd'hui, et pas du tout au début. Et c'est comme ça qu'on a attribué ce désaccord au début, les premières années de l'ère altimétrique, à la dérive de TOPEX-A, on l'a estimé, on l'a corrigé, et une conséquence inattendue, ça a été de voir qu'effectivement, entre la première décennie, on va dire, de la période altimétrique et la deuxième, eh bien, il y a cette augmentation de 30% de la hausse de la mer.
En millimètres ou centimètres, ça donne quoi ces différences?
En moyenne, sur les 25 dernières années, la mer a monté de 3 mm. Ça a été de 2,7 exactement, les premiers 12 ans. Et puis 3,5 les 12 ans suivants. Ça veut dire une augmentation de 0,8 mm par an. Et comme notre étude avait pour but d'estimer chacune des contributions, des composantes, comme je les ai énumérées tout à l'heure, eh bien, on a été capable d'attribuer cette augmentation de la hausse de la mer au Groenland, principalement au Groenland, à une fonte accélérée du Groenland, même si toutes les autres composantes ont aussi un petit peu augmenté durant la dernière décennie.
Oui. Annie Cazenave, est-ce que ce nouveau résultat, donc de 30% d'accélération, est-ce qu'il remet en cause justement les scénarios imaginés par le GIEC pour les périodes à venir, c'est-à-dire 2050-2100?
Pas directement, mais parce que on sait bien que les observations peuvent pas être extrapolées pour dire ce qui se passera dans le futur. Mais déjà, on sait, enfin les glaciologues remettent en question les estimations, les projections du dernier rapport du GIEC, en particulier la contribution des calottes polaires, qui est d'ailleurs, c'est important de le souligner, la plus grande source d'incertitude pour les projections futures du niveau de la mer. Ces dernières années, il y a eu des modèles raffinés de la part des glaciologues, Mais ça reste aujourd'hui quand même extrêmement difficile de modéliser le comportement futur des calottes. Je voudrais juste illustrer ça en mentionnant deux études qui ont été publiées récemment. Il y a une étude publiée en 2016 par des collègues américains a suggéré que l'Antarctique à elle seule, ou à lui seul, je ne sais pas, on dit le continent Antarctique, donc l'Antarctique à lui seul pourrait contribuer à la hausse de la mer en 2100 par un mètre. Un mètre, c'est absolument énorme par rapport au début des années 2000. Mais une étude dirigée par une équipe française, dirigée par une collègue française, publiée aussi récemment, juste avant, propose une valeur de 30%, de 30 cm pour la contribution de l'Antarctique. Donc vous voyez, il y a des disparités énormes. C'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à modéliser les phénomènes, en particulier ces phénomènes d'instabilité dynamique qui ont été observés au début des années 2000, mais dont on ne comprend pas encore tous les détails.
Allez, dernière question, très vite, parce qu'on est en retard,
oui,
Axel.
On se rend compte que les modèles et les estimations sont mises en défaut. C'est le moment de faire plus d'observations, c'est ça?
C'est mon message. Je crois que l'observation est essentielle. L'observation du niveau de la mer et de ses composantes, ça permet de détecter des changements dans une ou plusieurs contributions, composantes, comme ça a été le cas là dans notre étude. Et ces changements, on cherchera ensuite à les expliquer par des modèles adaptés. Ça permet, les études de bilan comme celles que l'on a développées, ça permet d'intercalibrer différents systèmes d'observation et de détecter des comportements anormaux, par exemple des erreurs systématiques. Et puis les observations, c'est ce qui permet de valider les modèles qui sont développés pour simuler le climat du futur. Si les modèles ne sont pas capables de reproduire ce qui se passe aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont un problème.
Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas Annie Cazenave pour votre éclairage. Vous êtes chercheur au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale donc à Toulouse. Merci Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Et si Parkinson commençait dans le ventre, cette hypothèse de plus en plus prise au sérieux est renforcée aujourd'hui par une étude suédoise. Les chercheurs montrent que le taux d'apparition de la maladie chez les patients ayant subi une vagotomie est 40% plus faible que pour le reste de la population. La vagotomie consiste en effet à sectionner le nerf vague qui relie le système gastro-intestinal au cerveau. Un nerf qui, dans le cas de Parkinson, pourrait donc être l'autoroute de migration de la maladie entre le ventre et le cerveau. Des résultats qui fournissent, selon les auteurs, une preuve préliminaire que la maladie pourrait commencer dans l'intestin. Un puits à CO2 dans le 14e arrondissement. La mairie de Paris va tester avec la société Suez une colonne Maurice d'un nouveau genre, servant à l'origine de support à la promotion des spectacles. Cette colonne sera remplie d'eau dans laquelle vont croître des millions de micro-algues. Ces organismes, grâce à la photosynthèse, captent le CO2 ambiant et rejettent de l'oxygène. Ce prototype de puits de carbone urbain sera efficace comme l'équivalent de 100 arbres, assure la start-up Fermentalg qui travaille sur le projet. L'installation de la colonne devrait être terminée avant l'été et sera visible place Salésia. Et puis pour terminer, retenez ce chiffre, les mammifères font leur grosse commission en 12 secondes. Des ingénieurs spécialistes de l'hydrodynamique des matières souples publient cette conclusion étonnante aujourd'hui. En étudiant finement la défection de très nombreux animaux allant du chat à l'éléphant, ils montrent que la pression appliquée sur les selles est quasiment constante et surtout indépendante de la taille de l'animal. Les gros animaux compensent leur grande taille avec des muscles plus puissants. La même équipe de physiciens avait déjà montré en 2015 que tous les mammifères faisaient pipi en 21 secondes. Ils avaient d'ailleurs gagné un prix Ig Nobel pour leur découverte. Une information, Marc Giraud, qui, j'en suis sûr, ne vous a pas échappé.
Bien sûr. Oui, oui. Et on savait déjà qu'une vache, quand elle fait une bouse, attire les insectes en 2 secondes 6. C'est très apprécié.
Les premières mouches. Donc, il y a plein de publications scientifiques absolument passionnantes.
Et le chiffre 12, c'est sacré parce qu'une vache fait 12 bouses par jour en moyenne.
Allez, on va se raconter d'autres histoires avec vous dans un instant. Darwin, les animaux et les hommes, c'est le dossier.
Bien loin dans le réseau social animal, tu vis dans la jungle et tu cherches une place quand la lumière du jour te révulse, mais celle des réverbères te traverse l'esprit, et quand la nuit tombe tu sens ta gorge qui se serre. Est-ce que tu ressens la sensation bizarre que tu as quand tu entres chez toi, loin des regards de la ville? Et là tu tournes en rond, alors tu te décides à sortir, tu prends la
revoir, mon garçon. C'est pas la première fois que je te vois ici. Pourquoi tu passes toute la soirée à boire et à errer dans la rue? De bar à l'after à boîte de nuit. Toujours les mêmes histoires. Toujours la même soirée. Tu enfiles ton bouton de cuir. Les lunettes. Les bottes qui raclent le sol. Tu prends l'ascenseur et là, tu pisses contre un mur. Pour toi, la nuit sera blanche. Tu t'enfonces dans les rues de Paris tragique. À base de Star Night et Gin Tonic.
Lorsque je déboule à minuit au faubourg, t'apprêtes à sortir sous les menaces de la ville. Est-ce que tu recherches l'amour avec moi? Est-ce que tu ressens la sensation? Tu sais, ne va pas chercher bien loin. La réponse est là au fond de ton verre. Quand tu te rends compte qu'il n'y a rien à dire et plus rien à faire.
Et c'est la femme à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Darwin, les animaux, les hommes, la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, donc, le dossier de l'émission avec mes invités Marc Giraud et Jean-Baptiste de Panafieux. Marc Giraud, vous êtes naturaliste de terrain, vous êtes journaliste spécialisé en zoologie. Donc là, vous publiez 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin, qui paraît chez Librio. Et puis Jean-Baptiste de Panafieux, vous êtes auteur scientifique et vous signez aux éditions La Ville Brûle. L'homme est-il un animal comme les autres? Avec des illustrations d'Étienne Le Croart. Et puis Darwin à la plage, l'évolution dans un transat. C'est bien ça comme titre, hein. C'est chez Duno. C'est une collection là aussi. Hein.
C'est une collection. C'est Darwin qu'on peut lire à la plage. Hein.
Ouais.
C'est pas les c'est vacances
pas Darwin,
de Darwin.
C'est pas Darwin qui est à la plage, effectivement. Les auditeurs qui nous rejoignent pour en parler avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Parler de Darwin, parler de la théorie de l'évolution, justement, Jean-Baptiste de Panafieux, il faut le faire inlassablement, je dirais, de
ah
façon
oui, faut...
régulière.
De toute façon, Darwin est toujours aussi passionnant aujourd'hui qu'il l'était au 19e,
oui.
Y compris dans les labos, où ses idées sur la sélection naturelle sont utilisées dans plein de domaines différents.
Donc c'est toujours aussi solide.
C'est solide dans le domaine de la biologie, même s'il y a plein de choses nouvelles qui permettent d'enrichir ses idées.
Mm-hmm.
Mais ça s'est propagé dans d'autres domaines, de la chimie, de l'informatique. L'idée de sélection naturelle est une idée extrêmement riche.
Ouais. Marc Giraud, vous faites œuvre de pédagogie finalement aussi en faisant ce
j'espère
travail.
J'espère bien, parce qu'avec des petites anecdotes, on comprend beaucoup de choses. Et c'est ce que faisait Darwin lui-même. Ses livres sont très lisibles. Hein. Bon, ils sont en anglais, mais ils sont traduits, c'est très lisible. Mmh. C'est pas pour les spécialistes. En fait, lui, il a construit l'immeuble. Et de temps en temps, comme il était très honnête, il dit là, dans cette pièce-là, je sais pas comment ça se passe, mais je vois le résultat. Et depuis, on a fait des découvertes. Donc, on a rempli des pièces. Ça a été la découverte de la génétique, de l'hérédité, tout ça. Mais l'immeuble, c'est lui qui l'a construit.
Oui. Pourtant, on lit peu Darwin, Jean-Baptiste de Panafieux. Franchement, ces livres ne sont pas aujourd'hui des best-sellers. Hein.
Non, Marc a raison, il est très lisible. Il a écrit pour le grand public.
Oui. Et il a pourtant été très lu à l'époque. Oui, au moment où il a sorti de l'origine des espèces, en tout cas.
C'était en milliers, ou éventuellement.
Oui, 1250 le premier jour.
Mais c'était des succès.
Tous achetés. Ils sont achetés. Il a fait 60 000 exemplaires, quand même, en 15 ans.
Donc ça a été un vrai succès, quand même. Ah bah oui. Ouais. Oui. Surtout que ça a été très critiqué. Donc,
ah oui. C'est peut-être pour ça que ça a stimulé l'acheteur.
Le contexte a été tout à fait particulier. Marc Giraud, l'histoire, pourtant, apparemment, commençait pas très très bien pour Darwin, si on en juge par la réflexion de son père, après 2 années à Édimbourg, qui lui reproche de trop s'intéresser aux chiens et aux rats. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces animaux alors?
Il se baladait dans la campagne avec ses chiens, il observait les animaux, ce qui lui a été très formateur, beaucoup plus que ses études, où il a dit que c'était un peu ennuyeux. Et son père, qui n'était pas très valorisant, lui a dit qu'il sera la honte de la famille.
le déshonneur de la famille. Donc il s'en est plutôt bien sorti. Quelle a été sa formation, justement, initiale, avant vraiment de partir en voyage, de faire ce long périple sur le Beagle, Jean-Baptiste de Panafieux?
Après un très court début d'études de médecine, où il a été horrifié par les opérations qui étaient pratiquées, comme elles étaient pratiquées à l'époque. Il a fait surtout des études de géologie et de botanique au départ. Mmh. Et il lui manquait des éléments de zoologie, justement. Mais il en avait fait aussi.
Et donc, Marc Giraud, les animaux ont été absolument prépondérants, évidemment.
C'est la base.
Dans sa formation.
Oui. Après, il s'est aussi intéressé aux plantes, mais aux plantes en tant que organismes qui ont des points communs avec les animaux. Donc, les plantes carnivores qui mangent les autres, les plantes grimpantes, les orchidées, les relations entre les plantes et les insectes. Il s'intéressait vraiment à tout, en fait.
Et il collectionnait aussi?
Ah oui, bah quand il était petit, il a eu quelques déboires parce qu'il adorait les coléoptères. Donc un jour, il soulève une souche, il voit 3 beaux scarabées, donc il en prend un dans chaque main, et le troisième, il savait pas comment le prendre, donc il l'a mis dans sa bouche. Le problème, c'est que c'était un scarabée péteur, c'est-à-dire qu'il lâchait un acide, et il s'est brûlé la bouche pendant des jours et des jours, et son seul regret, en fait, c'est pas d'avoir eu mal, c'est juste d'avoir perdu sa collection.
C'est ça, parce que là, c'est déjà le scientifique qui parle.
C'est tout Darwin. Pendant son voyage, il mettait son bras à l'air pour faire piquer les moustiques, pour regarder ça. Enfin, il faisait plein d'expériences comme ça. Il donnait.
Alors c'est ça, parce qu'au fond, il s'intéressait absolument à tout. C'est intéressant aussi de voir sa démarche, son peu de préjugés sur les choses. Oui. Et c'est probablement ce qui a permis Jean-Baptiste de Panafieux de donner naissance aussi à ce génie quand même.
Oui, Darwin, c'est un homme du 20e, voire du 21e siècle. Par rapport à tous les autres qui parlaient déjà un petit peu d'évolution, comme Lamarck, qui était des naturalistes du XVIIIe siècle, avec les modes de pensée sur les systèmes, etc. Lui était un vrai scientifique, comme on l'entend aujourd'hui.
Ouais.
Il observait,
avec les méthodes, c'est
il
ça.
Réfléchissait, il se posait des questions, il cherchait des preuves. Il était d'une rigueur qu'on aimerait voir tous les jours encore aujourd'hui.
Ouais. Donc son sens de l'observation, absolument essentiel.
Phénoménal, parce qu'il n'a pas fait que, il n'a pas trouvé que la théorie de l'évolution. Il a fait un autre livre fondamental qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, qui a fondé quand même les bases de l'éthologie, de la science du comportement. Il a fait plein de choses.
Et son livre sur les vers de terre, est un des premiers livres d'écologie.
Ouais. Qu'est-ce qu'il fait sur les vers de terre? Alors pourquoi il s'intéresse autant
Il considère que le ver de terre est probablement l'animal le plus important sur notre planète, par sa façon de transformer la surface de sol qui est absolument indispensable pour les plantes. Et donc, pour les animaux herbivores, et donc pour les carnivores. C'est la base.
C'était déjà de l'écologie. Et il avait peur de rien. Il jouait du piano à ses vers de terre pour voir s'ils étaient sourds, par exemple. Il faisait jouer du basson à son fils. Il avait, aucun tabou.
Ouais. C'était quoi? Vraiment un marginal dans son milieu à l'époque? Au contraire, quelqu'un qui suscitait l'enthousiasme, l'intérêt, l'observation de ses professeurs?
Il était enthousiaste, ça c'est certain. Mais il était très en avance en fait. C'était quelqu'un qui allait bien au-delà de la façon de considérer le travail du naturaliste comme ça se faisait à l'époque.
Marc Giraud.
Il n'avait pas de dénégation des autres. Il était conscient de l'universalité du vivant. On est tous de la même étoffe, qu'on soit homme, animal, même plante. Donc il était ni sexiste, ni raciste, ni même spéciste. Enfin, à mon avis, on pourra toujours trouver des petits préjugés de l'époque, mais quand même, il était très très conscient de nos points communs. Oui. Et avec l'ADN, on a trouvé que c'était vrai.
Pourquoi l'autruche est le plus célèbre animal du bestiaire de Darwin, alors Marc Giraud?
C'est au cours de son voyage en Amérique du Sud, il avait remarqué, il appelait ça autruche, mais en fait c'est des nandous, ça ressemble. Mm-hmm. Il y en avait deux espèces, une qui était connue et l'autre qui avait été décrite, enfin observée par Alcide d'Aubigny avant lui, et il voulait absolument l'attraper, il n'y arrivait pas. Mais vraiment, il n'y arrivait pas. Voilà.
Et un jour, pour l'observer, enfin, pour travailler.
Oui, bah oui, pour avoir un échantillon. Et un jour, en fait, il l'a trouvé dans son assiette.
Voilà. C'est ça.
Donc, il s'est aperçu que l'oiseau qu'il mangeait était vraiment bizarre. Donc, ils se sont dépêchés de garder la tête, les plumes et d'envoyer tout ça en Angleterre.
C'est ça.
Ils ont reconstitué la bête qui s'appelle, le n'en doute Darwin, Rhea Darwini aujourd'hui.
Voilà, donc c'est grâce à un cuisinier qui avait gardé finalement une bonne partie de l'animal dans ses cuisines.
Il était fier parce qu'il n'avait pas encore de réputation, il était encore jeune.
Alors, il y a ce voyage sur le Beagle, évidemment, Jean-Baptiste de Panafieux. Ça, c'est le jeune Darwin qui part. Hein. À l'époque, il a quoi, 22 ans, c'est ça, quand il s'embarque sur le Beagle. Il
Faut faire le calcul.
A priori, c'est ça.
Oui, c'est dans ces eaux-là. Oui.
Et donc, ce long voyage qui va lui donner le temps, parce que c'est ça aussi, ce qui explique les temps d'observation de sa part, c'est les 5 années passées en mer et dans ces différents pays, sur les différents continents.
Surtout les années passées à terre, c'est-à-dire qu'en mer, il avait le mal de mer, c'était épouvantable pour lui. Mais dès que le bateau accostait, il allait à terre, il passait des mois à voyager dans toutes les régions du monde, en fait. Et il a fait un voyage comme peu en faisaient à l'époque aussi. Il y en a quelques-uns, mais ça, c'est la base, c'est vraiment les fondations, ce qui lui a ouvert l'esprit. Comme on dit que les voyages ouvrent l'esprit, ben, dans son cas, c'était réellement ça.
Quels sont les animaux, alors, au cours de ce voyage très emblématique, justement, Marc Giraud, qui vont, là aussi, construire cette
théorie d'évolution ? Alors, il y a des animaux vivants, hein, y a les fameux pinsons de Darwin, dont on peut parler, il y a aussi les fossiles, parce qu'ils trouvaient des fossiles marins dans les Andes, enfin, très loin de la mer. Donc, toutes ces conceptions se sont ébranlées. Il a même vécu un tremblement de terre, et ça l'a vraiment secoué dans tous les sens, et ça lui a montré que la planète n'était pas un truc immuable, comme le dit la Bible, et comme le disent... Enfin, tout était prétexte.
Mais ça, c'était une découverte pour l'époque.
Non, mais lui, il l'a vécu dans ses tripes, quoi. La terre qui bouge, on connaît pas trop ça en Angleterre, quoi. Il a vu une éruption volcanique. Enfin, il a vécu beaucoup de choses. Il a rencontré des Indiens, des cannibales, des révoltes indiennes. Tout ça, ça a beaucoup
contribué, évidemment, dans son esprit. Oui. Combien d'années, justement, ensuite, j'allais dire, de digestion de toutes ces informations qu'il a reçues, d'analyse pour en faire une théorie?
Il a attendu 20 ans avant de, enfin, ça a mijoté, il l'avait déjà à peu près au point, mais ça a attendu à peu près 20 ans avant qu'il la publie, et il ne l'a publié que parce que Wallace, l'autre inventeur de la théorie, allait publier la même chose.
Ouais.
Donc il avait très très peur, il en faisait des cauchemars de sa théorie. Il avait très peur de l'Église, de perdre son statut social, parce que c'était quand même un bourgeois bien installé, il n'avait pas envie de changer de vie. Hein.
Ouais. Wallace, c'est quand même incroyable, Jean-Baptiste de Panafieux, c'est-à-dire qu'un autre homme ailleurs a exactement la même intuition que lui et va construire quasiment la même théorie, mais c'est Darwin qui va arriver le premier finalement sur la ligne d'arrivée.
Alors, d'une certaine façon, Wallace avait proposé un article où ses idées étaient déjà exposées et Darwin a été horrifié parce que ça ressemblait tellement à ce sur quoi il travaillait depuis 20 ans qu'il ne savait plus quoi faire. Ses amis l'ont convaincu de discuter avec Wallace et Wallace était extrêmement honoré de pouvoir discuter avec Darwin qui commençait déjà à être connu. Et puis par la suite, alors les deux articles courts ont été publiés en même temps. Ça a intéressé personne parce que il n'était pas encore temps. Et Darwin s'est dépêché d'écrire son premier livre, enfin le plus célèbre, L'Origine des espèces. Par la suite, Wallace a continué dans sa direction et a dit des tas de choses intéressantes. Il y a quand même un point sur lequel Wallace s'est arrêté, c'est l'homme. Darwin considérait que l'homme avait la même origine que les autres animaux et qu'il fallait considérer son origine comme celle des animaux, ouais, par ses sélections naturelles ou sélections sexuelles, puisqu'il parlait de l'importance du sexe dans l'évolution. Et voilà, c'est arrêté là. Et a dit non, l'homme c'est pas possible. Il y a trop de. Il était spiritualiste et l'esprit était différent. Et donc. On voit là la différence entre celui qui va jusqu'au bout de ses idées et celui qui avait des intuitions fulgurantes, puis un travail énorme. Voilà, ça a énormément travaillé, était passionnant, mais il s'est arrêté en cours de route.
Ça l'effrayait lui-même d'ailleurs, Darwin, d'aller aussi loin au fond dans sa théorie.
Peut-être, mais il était honnête. Donc, il a été effrayé avant de publier son truc, mais une fois que c'était lâché, donc il s'est défendu bec et ongles quand même. Hein.
Il était un peu effrayé des réactions qu'il allait susciter, mais ça l'a conduit à accumuler les preuves, un maximum d'arguments. C'était ça que ça l'a poussé à aller jusqu'au bout de toutes ses démonstrations.
Darwin, de l'origine des espèces, 1859, et le procès d'Oxford, extrait du film Darwin avec Jean-Pierre Marielle, qui était sorti sur les écrans en 2009.
Au début de l'été 1860, se tint la session annuelle de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, qui allait devenir légendaire.
Oui, c'est le fameux débat d'Oxford.
Mon livre sur l'origine des espèces était au centre du débat.
La parole est à Monseigneur Wilberforce.
Le livre de Charles Darwin n'a d'autre but que celui d'amener le lecteur à sa propre conclusion. Conclusion que voici, tous les êtres vivants, l'homme y compris, proviendraient d'une forme primordiale unique. Cette conclusion est indubitablement ahurissante.
Vous avez mal lu la citation, monseigneur. L'homme n'y est pas mentionné. Je me permets d'ailleurs de vous lire le texte intégral que j'ai sous les yeux. Il faut admettre que tous les êtres organisés qui ont jamais vécu peuvent descendre d'une forme primordiale unique.
Le texte parle des êtres organisés, soit. Il nous faudra donc décider si l'homme en est un.
Voilà, tous nous descendons de la même cellule au fond, Jean-Baptiste de Panafieux, c'est aussi ça cette idée. Hein.
Ah, c'est l'idée qui avait été effectivement proposée par Darwin.
Ouais. Et donc là, cette appartenance à la famille des primates, Marc Giraud, c'est ce qui choque le plus en tout cas.
Ouais, c'est deux choses qui choquaient, l'absence de Dieu et justement l'animalité de l'homme. Et ça, la parenté avec le singe, ça plaisait pas. Hein.
Ouais. Il y a eu beaucoup de critiques, de satire.
Oui, la femme d'un évêque qui disait « Si jamais c'est vrai qu'on descend du singe, pourvu que le peuple ne le sache pas ». Voilà, c'est, ouais. Ça faisait peur. Ouais.
C'est une idée qui est évidemment admise aujourd'hui. Mais on fait toujours en sorte que l'homme ait sa différence, sa singularité quand même par rapport au reste du règne animal.
Oui, ça reste quelque chose. Moi, j'ai rencontré des gens tout à fait d'accord avec l'idée d'évolution, mais qui gardaient des réticences.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, bien entendu, je ne parle pas des créationnistes, etc., mais même chez des gens qui admettent l'idée d'évolution, il y a cette idée que pour l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible. Ouais. Nous sommes trop parfaits, trop merveilleux.
C'est ça, c'est la fameuse blessure narcissique, au fond. Hein,
il y a de ça.
Que Darwin nous a infligé.
Il y a un refus philosophique qui peut se joindre parfois à un refus religieux de cette origine animale.
Et il y a ce décentrage de l'homme, qui n'est pas au centre de toute chose.
Bah non, et on parle de notre part animale, c'est-à-dire que ça serait juste un petit bout. Mais le reste n'est pas animal. Alors qu'on est des animaux biologiquement, il n'y a aucun souci. On est des mammifères à pouce opposable, à langage articulé, mais on est des mammifères.
Et tout ça ne reste pas forcément évident pour certains bipèdes. Hein.
Alors que d'autres, en ce moment, découvrent l'humanité des animaux. C'est-à-dire tout ce qu'on a est en embryon dans l'animal, y compris le sens artistique, le sens de la justice et des choses très poussées aujourd'hui.
Allez, on y revient dans un instant. Vous êtes nos invités. Darwin, les hommes, les animaux et l'évolution dans le dossier La Tête au Carré.
You're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Scared you for 20 odd years.
walking peasants as far as I can see.
Working Class Hero, la voix de Marianne Faithfull.
Comparaison impartiale de l'évolution et du créationnisme. Faisons connaissance avec ces deux livres. L'un, la Bible, a été écrit par notre Seigneur. L'autre, l'origine des espèces, a été écrit par un alcoolique honteux appelé Charles Darwin.
C'est une calomnie. Darwin a été l'un des plus grands esprits de notre époque.
C'est pour ça qu'il se bécote avec Satan.
L'évolution est mondialement reconnue comme un fait scientifique. Elle a même été acceptée par des éminents conservateurs comme George Will et le défunt pape Jean-Paul II.
Ouais, réfléchir, elle a peut-être raison.
Lisa, tu en as assez dit comme ça. Les enfants, noyez-la sous les sifflets et les flatulences.
Tout ce que je dis, c'est...
Qu'est-ce qui va pas, ma chérie?
On nous fait étudier la théorie de la création à l'école. Aujourd'hui, on a eu un test et toutes les réponses étaient « c'est Dieu qui l'a fait ».
Eh bien, je pense que c'est bien de donner une écoute équitable aux deux idées. Chacune peut apporter à l'autre.
Maman, là, il faut vraiment choisir entre la science et la croyance.
Voilà un extrait des Simpsons que nous avons déjà diffusé dans l'émission. On l'aime tellement, on ne s'en lasse pas. Et puis c'est toujours bien de faire la part des choses. Et là, c'est très bien expliqué, c'est ultra pédagogique, cet extrait justement, Marc Giraud et Jean-Baptiste de Panafio pour parler de Darwin et de l'évolution. C'est un peu pour ça aussi, au fond, que vous écrivez ces ouvrages aujourd'hui. C'est pour rappeler aussi l'importance de la laïcité et la part des choses entre la science et la religion, Marc Giraud.
Ah, tout à fait. Je suis très fier d'avoir été traduit en turc. Vous savez que l'évolution n'est pas enseignée là-bas. Donc l'éditeur turc a eu du courage. Donc c'est très important. Et dans les Simpsons, il se dit quelque chose d'important d'ailleurs. Ils disent faut être équitable entre les deux théories. Mais non, il y a un truc qui est faux et un truc qui est vrai. Et c'est ce qui se propage beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une opinion a valeur de vérité. Ben non, c'est pas parce que Trump dit que le réchauffement du climat est nul ou que les journalistes disent que des bêtises que c'est vrai. C'est juste une opinion. Et aujourd'hui, on a tendance à prendre à égalité justement des choses fausses et des choses vraies.
Alors Jean-Baptiste de Panafieux, c'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans le livre « L'homme est-il un animal comme les autres ?» C'est important de faire la part des choses pour rappeler que science et religion ne se posent pas les mêmes questions.
Ne se posent pas les mêmes questions et pas de la même façon. Et les réponses que les uns et les autres apportent sont d'ordre complètement différent et ne peuvent pas être comparées, ne peuvent pas se mélanger. Ce sont deux modes de pensée qui peuvent avancer en parallèle, mais qui n'ont pas de raison de se fondre l'un dans l'autre.
Oui, parfois c'est compliqué parce qu'il y a même des pensées intermédiaires entre la science et le créationnisme. On a le dessin intelligent, par exemple, qui est là aussi.
Alors même les juges américains ont reconnu qu'il s'agissait de religion et non pas de science. C'est-à-dire que ces gens gens soutiennent qu'il y a bien eu évolution, ils le soutiennent du bout des lèvres, mais ils le soutiennent.
Mais c'est Dieu qui est à l'origine.
Mais c'est Dieu qui est à l'origine.
Donc là, badaboum, quoi.
Et là, on sort complètement de la pensée scientifique, puisque c'est quelque chose d'indémontrable. Le simple fait que ça soit indémontrable nous fait sortir de la science.
Ouais. Mais le créationnisme se porte bien encore aujourd'hui.
Mais on peut croire ce qu'on veut. Mais le problème avec les créationnistes, c'est pas qu'ils croient quelque chose qui est faux ou qui est juste. Ils le croient.
Ouais.
Mais ils veulent avoir la caution scientifique. Et ils font semblant d'être scientifiques, ils font des congrès, ils font appel à des gens qui travaillent dans la science et qui se prétendent scientifiques.
Et on n'est plus dans la méthode de la science.
Alors qu'on n'est plus dans les méthodes scientifiques. Ouais.
Marc Giraud.
On n'est pas dans le même domaine. La science ou la philosophie, c'est le pourquoi des choses, et la science, ce n'est que le comment. Mais c'est déjà pas mal.
Alors, les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, c'est Pierre qui nous dit ceci. L'importance des parasites, des bactéries dans l'évolution du vivant, l'influence qu'ils exercent, est-ce que ça n'est pas fondamental? Alors, le naturaliste, Marc Giraud.
Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, Darwin disait que si on avait les mêmes parasites que les animaux, c'était aussi une preuve de notre parenté. Et nos parasites évoluent en même temps que nous. Vous savez qu'on partage nos morpions avec les gorilles, par exemple. Mmh. Les deux ont évolué en même temps et se sont séparés à peu près en même temps.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, les parasites sont très importants et les bactéries sont extrêmement importantes aussi, et peut-être d'une façon encore plus étonnante qu'on le pensait jusqu'à présent, puisque on se rend compte qu'il y a des gènes qui sont transmis par des bactéries à d'autres bactéries, à des plantes, voire à des animaux. Et on commence à évaluer l'importance de ces transferts de gènes qui sont des modes d'évolution différents de ce qu'on imaginait, ce qui marchait par reproduction simplement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait sélection naturelle de type darwinien derrière, mais il y a des éléments qui peuvent se transmettre horizontalement entre espèces.
Ouais.
Par le biais de virus ou de bactéries.
Alors, c'est passionnant. Ouais, justement, Marc Giraud, la théorie de l'évolution, alors si on la résume, si on en fait une bonne vulgarisation, c'est quoi exactement, alors, dans le monde animal? Qu'est-ce que ça dit?
Alors, c'est trois principes, en gros. D'abord, les animaux varient les uns les autres. Donc, il y a des petites mutations, justement, qui sont un peu au hasard. Ensuite, il se produit plus d'êtres vivants qui ne peuvent en survivre. Ça, il a trouvé ça avec Malthus et les éléphants. Donc à chaque fois, il y a un animal qui explique ça. Et ensuite, les porteurs de variations favorables, ce sont eux qui se reproduisent et qui transmettent leurs gènes favorables. C'est ce qui fait que petit à petit, une lignée se transforme. Ouais. Voilà, en gros.
Jean nous dit, est-ce que l'évolution justement des espèces, elle se fait par palier ou par gradation? Alors, Jean-Baptiste de Panafieux.
On a tous les exemples possibles. Par gradation, c'est beaucoup plus simple. On voit des changements insensibles au fil des générations. On voit aussi, de temps en temps, des sauts plus importants. Alors, ça s'est produit, sans doute, il y a quelques centaines de millions d'années, lorsqu'il y avait peu d'espèces et des espèces beaucoup plus simples. Les changements ont pu être beaucoup plus brutaux et donner lieu à l'apparition de formes très différentes, comme les crustacés, les vertébrés, les vers, etc. Mais même aujourd'hui, on voit des changements. Il y a un exemple incroyable de lézards dans une île de l'Adriatique qui ont été introduits dans une des îles et qui ont été laissés ensuite à cause de la guerre tout seuls pendant très longtemps. En 30 ans, ils sont devenus végétariens.
Ouais, ça va vite.
C'est quelque chose d'incroyable.
Ils se sont transformés morphologiquement et d'une manière de
et leur comportement aussi.
C'est vrai. Ouais, on observe ça parfois. Il y avait les phalènes du bouleau par exemple aussi. Ces papillons qui avaient changé ultra vite parce qu'il y avait un critère environnemental aussi.
C'est juste une couleur. Des formes qu'on dit mélaniques, c'est-à-dire noires, plus pigmentées que les autres. Ouais. C'est quelque chose de très très simple en fait comme changement.
Mais c'est un petit exemple aussi.
C'est un petit exemple.
Tout à fait intéressant. Visible. Voilà.
Ouais. Et très visible.
Patrice nous dit, la clé de voûte de l'évolution des espèces serait que la fonction crée l'organe. Est-ce une donnée universelle toujours reconnue ou y a-t-on trouvé quelques exceptions?
Non, c'est Lamarck ça. Justement, Darwin est passé depuis.
Ouais. Mais alors c'est ça. Lamarck, il est totalement has-been aujourd'hui ou pas? Ou il nous a quand même apporté des choses intéressantes? Parce que le pauvre, c'est vrai qu'il a été.
Il a inventé le mot biologie, il n'a pas fait que ça.
Il a une vision qui est intéressante, qui est l'importance de l'écologie sur les animaux et la façon dont le milieu agit sur les animaux. Mmh. Mais le mécanisme qu'il propose pour l'action précise du milieu sur les animaux est un mécanisme qui n'a jamais été observé et qui est de l'ordre du 18e siècle, comme je disais tout à l'heure. C'est une pensée de force inconnue qui n'ont jamais été mises en évidence. Donc de ce point de vue-là...
Darwin a fait vraiment le plus gros du boulot.
C'est le coup de la girafe. Il disait qu'à force d'allonger son cou, la girafe avait le coulon, quoi. C'est, et Darwin disait, je vois pas comment un animal voudrait, aurait la volonté de s'adapter comme ça. Ça
bon, Lamarck hein. parlait pas de volonté, il était plus subtil que ça. Mais malgré tout, alors aujourd'hui, il y a des choses qu'on observe d'action du milieu sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que les gènes ne sont pas changés, mais la façon dont ils s'expriment dans le corps, leur capacité à agir dans l'organisme peut être modifiée, et cette capacité peut se transmettre d'une génération à l'autre.
Ça, c'est l'épigénétique.
C'est la fameuse épigénétique dont on parle depuis quelque temps. Mais c'est pas du lamarckisme, parce que derrière, il y a toujours la sélection naturelle aussi qui agit, et puis ça ne change pas les gènes, ça change juste leur façon de s'exprimer, et c'est réversible aussi.
Oui. Ce message de Paul, finalement, Homo sapiens, c'est une espèce vivante parmi d'autres.
L'arbre généalogique, c'est pas avec des racines et un sommet, comme on l'a souvent vu, c'est un bouquet... Un bouquet qui va dans tous les sens.
Alors justement, on va voir que nous partageons pas mal de caractéristiques avec d'autres animaux. Les singes, par exemple, ils rient. Exemple avec le bonobo.
Les bonobos, qui sont génétiquement les plus proches de nous, ont le rire le plus similaire au nôtre. Les travaux de Marina suggèrent que le rire a évolué en même temps que nous et nous a permis de développer une faculté essentielle. Les chimpanzés rient sur l'inspiration et l'expiration. Les hommes, eux, rient surtout sur l'expiration, ce qui requiert davantage de maîtrise de la respiration et leur a ainsi permis un jour de parler.
Voilà, c'est amusant ça, le rire du bonobo, extrait du Zapping Sauvage de France 5 diffusé en 2016, Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, c'est étonnant de voir que, justement, l'un des éléments qu'on disait être le propre de l'homme, le rire, on le retrouve. Mais si on chatouille des bébés rats, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un rire aussi.
C'est pour ça qu'on l'a
En ultrason, c'est
Mais
ça.
Darwin, lui, il chatouillait les chimpanzés du zoo de Londres, donc le rire propre de l'homme de Rabelais, là, il était déjà contre. Il savait beaucoup de choses. Il savait, par exemple, que les chimpanzés utilisaient des outils, parce qu'il avait des correspondants dans le monde entier.
Avant, Jane Goodall.
Jane Goodall ne l'a... révélé qu'en 1964 quand même, donc il était bien en avance sur bien des choses.
Hein. Oui. Jean-Baptiste de Panafieux, alors le propre de l'homme c'est quoi finalement? Existe-t-il? Parce que plus on étudie les animaux, et là vraiment on est dans un courant qui explose en ce moment, il y a énormément de recherches là-dessus qui montrent que nous sommes assez semblables à nos chers animaux. Qu'est-ce qui fait peut-être notre singularité absolue aujourd'hui?
Un des problèmes, c'est que chaque fois qu'on trouve quelque chose qui semble être de l'ordre du propre de l'homme, on le retrouve démenti par un animal sur lequel on voit cet élément, au moins à l'état, un état plus simple. Et à ce moment-là, on change de critère. On parlait des outils, et puis on s'est rendu compte que les chimpanzés utilisaient des outils. Alors on a dit, il faut que l'outil soit transformé. Et là, on s'est aperçu qu'il y a des oiseaux qui sont capables de transformer des objets dans la nature, même les singes, enfin, même les chimpanzés aussi. Donc on change. On arrive à l'ordinateur. Effectivement, aucun animal n'utilise d'ordinateur. On en fabrique.
La conscience de soi, par exemple, les éléphants. Là encore, un exemple intéressant pour illustrer que nous ne sommes pas forcément uniques au monde.
Les éléphants se déplacent d'avant en arrière devant la glace, comme s'ils se demandaient « Pourquoi celui-là fait-il exactement pareil que moi ?» Puis, ils finissent par comprendre et adoptent un comportement que nous qualifions d'autocentré.
Ce test classique consiste à marquer l'éléphant à un endroit de son corps qu'il ne peut voir que grâce au miroir. Essaiera-t-il d'éloigner la marque sur son propre corps ou bien sur la silhouette qu'il a en face de lui? Jusqu'à présent, seuls des singes anthropoïdes, des dauphins et des pies ont réussi le test. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Joshua Plotnik, on sait que les éléphants aussi se reconnaissent dans la glace.
Et voilà, encore une croyance qui tombe. Hein.
Mais ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est qu'on oublie que l'homme lui-même ne se reconnaît pas toujours dans la glace. L'homme à l'état de nouveau-né,
le petit homme,
le petit homme ne se reconnaît pas et il commence à se reconnaître au moment où les psychologues appellent ça le stade du miroir. Ouais. Mais avant, ils sont comme des animaux. On devient humain aussi en cours de route.
Marc Giraud, ça veut dire qu'en ce moment, on est en train de vivre vraiment un changement très important là, dans notre perception des animaux
et
des
bêtes. Oui, et c'est la conséquence du darwinisme d'ailleurs. Donc l'animal, être sensible, tout ça, ça rentre même dans le code civil. Donc oui, on est en plein une approche très très différente des animaux, en effet. Et le propre de l'homme, on voit bien que c'est une gageure, que c'est idéologique. Mais je dirais quand même que chaque espèce a sa spécificité et que l'homme n'est pas tout à fait comme les autres quand même. On a une pensée abstraite qui est quand même très particulière, on écrit, et on est un peu les premiers de la classe à ce niveau-là. Peut-être pas à d'autres niveaux, mais à ce niveau-là, on est les premiers de la classe, et ce qui ne donne pas une supériorité, mais une responsabilité vis-à-vis des autres.
Ouais. Notre cerveau humain, quand même, Jean-Baptiste de Panafieu, il a quelques différences par rapport aux... Il est plus évolué quand même par rapport à ceux des autres animaux ou pas?
Il n'est pas plus évolué puisqu'on a évolué la même durée de temps que toutes les autres espèces. Mais il est différent, il a des capacités supérieures dans certains domaines, sans l'ombre d'un doute. Hein, on a une vision du futur, une vision du passé, on est capable de penser notre propre pensée. Ce que manifestement les autres animaux
ne sont
pas.
Donc une sophistication, on va dire.
Une sophistication. Hein.
Voilà, mais ça c'est notre critère humain. Voilà, et on compare toujours les meilleurs des humains aux pires des animaux. Mais il y a des animaux qui sont étonnamment empathiques, par exemple, alors qu'il y a des humains qui n'ont absolument aucune empathie. Donc il faut faire attention aussi aux généralités.
Et puis se mettre à hauteur d'animal. Hein. On le dit souvent dans cette émission quand on parle de l'intelligence animale, c'est de pouvoir les observer à leur hauteur
absolument.
À eux.
Hein. Et ça c'est l'éthologie qui a donné ça. C'est encore Darwin. Hein.
Ouais. Et puis on a tendance à opposer l'homme à l'animal, mais il y a les animaux, il y a plusieurs millions d'espèces différentes, et dans chaque espèce, les individus sont différents. On sait très bien que entre deux chimpanzés, l'un va être capable d'apprendre 2000 mots et l'autre en apprendra une vingtaine. Il y a des individus très différents, et ça on s'en rend compte depuis peu aussi.
Merci en tout cas à tous les deux, et pour prolonger la réflexion, Darwin à la plage, l'évolution dans un transat, c'est chez Duno, et puis 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin, c'est chez Librio pour Marc Giraud. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.